Tralala est présenté hors compétition au Festival de Cannes. Avec nous donc Jean-Marie Arnaud Larieux et Dominique A, un des chanteurs qui amène sa voix à travers un des personnages du film. On va l'aborder tout d'abord, le projet. Je crois savoir qu'il s'agissait d'un appel d'offres du CNC. Donc ma première question, c'est est-ce que vous avez eu déjà ce projet et vous avez profité de cet appel d'offres, ou alors vous avez profité de cet appel d'offres pour construire le projet ?
C'est toute l'histoire du cinéma résumée en une question. Non, la comédie musicale, c'était... j'aime pas le mot vieux projet d'ailleurs, mais profondément ancré en nous. Depuis Un homme œuvré, où on avait fait déjà chanter Mathieu.
Quand on a dit comédie musicale, le producteur nous a dit « mais travaillez cette idée ». Donc on a commencé en fait à écrire, et il se trouve qu'ensuite il y a eu le...
C'est un peu accéléré le travail, le CNC. Voilà. Pour être prêt au moment des commissions.
On a essayé d'être prêt et on a obtenu l'aide, ce qui a été un encouragement pour nous, pour la production. Ça a accéléré les choses, mais ce n'est pas ce qui a déterminé l'idée de faire une comédie musicale.
Parce qu'il faut savoir quand même que ce producteur nous a incité à aller vers là, mais c'est très rare chez les producteurs. La comédie musicale est quelque chose qui fait en général assez peur aux producteurs, aux financiers, aux chaînes de TV. Ça fait très peur. Voilà.
C'est vrai que j'ai toujours entendu cette frilosité sur le financement des comédies musicales. Donc là, vu qu'il y a l'appel d'offres du FNC, il y a comme une légitimité institutionnelle finalement là-dessus. Et vous, comment vous avez défini la nature de cette comédie musicale par rapport évidemment à ce genre cinématographique que l'on connaît ?
Ce qui fait très peur dans ce genre-là, c'est que financièrement, ça peut exploser. Il n'y a pas de limite dans la conception d'une comédie musicale, comme un film de guerre d'ailleurs. Ça peut être deux soldats derrière un arbre. Ou des milliers de soldats. Et la comédie musicale, c'est ça qui fait peur. Mais donc nous, on l'a conçu. Notre idée était vraiment d'essayer de montrer comment la comédie musicale pouvait naître dans une fiction et pourquoi les gens se mettaient à chanter. Voilà.
Oui, ce qui est l'idée française on savait qu'on n'aurait pas des moyens énormes, mais quand on dit ça coûte cher une comédie musicale, c'est notamment cette question qui vient très rapidement, c'est l'histoire des chorégraphies. Parce que certes, on chante dans un film, mais on s'aperçoit très vite que chanter devant une caméra, ça ne suffit pas. On n'est pas dans le live, donc il faut qu'il y ait des mouvements autour, ce qu'on appelle la chorégraphie. Et la chorégraphie, c'est cher au sens de des sortes de danse, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est du temps, etc. Et là, effectivement, on s'est posé la question, nous, c'est quoi la comédie musicale, à la limite, dans nos vies, dans une sorte de réalisme, comme ça. On appelle ça plutôt naissance de la comédie musicale. Et le film, s'aventure sur ce chemin.
Il y a deux types de comédie musicale. Il y aurait plutôt le versant réaliste, où ce sont des personnages de musiciens et de chanteurs, et un versant plus sur la superficialité, l'irréel, le merveilleux, à la Minelli. Vous êtes entre les deux, j'ai l'impression.
Oui, mais c'est souvent les deux à la fois, c'est-à-dire que c'est souvent des personnages liés au spectacle. Alors, soit qui ont des difficultés à le monter, soit des histoires de ratage, de réussite. Ça, on s'est beaucoup posé la question. Est-ce que c'était une success story ? En réalité, le tout premier scénario était plutôt une success story, mais dont on n'était pas très très content, au fond.
Quand on dit success story, c'est simplement ce chanteur quasi à la rue. On aimait bien l'idée qu'il se fait prendre pour un autre et se prenant pour un autre devient réellement un chanteur.
Et se trouver un public.
Et se trouve un public. Voilà. L'idée, c'était au fond, un chanteur à la rue, c'est celui qui n'a pas trouvé son public et il allait trouver son public. Là, ça s'est un peu complexifié parce qu'on s'est retrouvé avec Mathieu Amalric, enfin on s'est retrouvé, on l'a choisi, mais qui n'était pas chanteur dans sa vie professionnelle, face à Bertrand Belin qui joue son frère, entre guillemets. Puisque dans le scénario c'est un peu plus compliqué, qui lui était à l'inverse un chanteur qui avait peu joué, qui n'est pas trop acteur professionnel, on va dire.
Tu n'es pas mon frère, alors dis-moi qui es-tu, qui revient comme un cœur en ville.
Et donc ils échangent un peu leur rôle. C'était l'idée que... Au fond, c'était l'imposteur qui allait révéler celui qui était vraiment chanteur. Et ce qu'on a filmé, c'est Bertrand Belin qui devient vraiment chanteur. Voilà. C'était plus juste.
Voilà. Tout étant basé sur cette phrase de Philippe Catherine, surtout ne soyez pas vous-même. Mais au final, ils sont très eux-mêmes à la fin, évidemment.
Je suis sexy. Quand t'es sexy, je suis sexy.
Alors évidemment, la place de la chanson dans votre cinéma n'est pas une nouveauté. Il y a comme une continuité finalement, même si là c'est sur tout un film, alors que d'habitude c'est peut-être sur des moments particuliers. Même si évidemment le film Un homme, un vrai, il y a vraiment des scènes chantées tout du long. Est-ce que justement pour vous il y a une continuité, ou alors vous avez eu vraiment une envie d'autre chose ?
La vraie nouveauté, c'était de faire chanter les comédiens. Enfin, on l'avait fait un peu avec Mathieu, mais là, c'était tous les comédiens, tous les personnages, d'où rencontrer des auteurs. Ça, on y tenait vraiment à ce que chaque personnage ait son auteur, compositeur. Alors, ça faisait peur aussi un peu aux gens, parce qu'ils imaginaient quelque chose de trop divers ou trop calibré. Alors, celui-là va être rock, celui-là va être romantique. Mais bizarrement, on n'était pas inquiet de ça. Enfin, d'abord par le choix des auteurs. Ils ont quand même... Il y a un lien de famille entre tous ces auteurs-compositeurs. Et puis il y avait Renaud Létang, dont on savait qu'il allait arranger tout ça, harmoniser tout ça. C'était ça le vrai truc, c'était de faire chanter les comédiens et de mettre en scène ces chansons-là. Parce que nous, le rapport à la musique, on l'a
depuis longtemps, parce que même dans Peindre ou faire l'amour, par exemple, il y avait une fameuse chanson de Brel. On n'est pas très brélien d'ailleurs, mais il se trouve que justement à l'intérieur d'un film, il y a tout d'un coup des éléments, il ne s'agit pas d'exposer ses goûts, c'est pas ça la question. Mais il y avait des chansons qui n'étaient chantées par personne, mais l'émotion d'une chanson qui débarque dans un film, on avait déjà un peu travaillé sur ça, on appelait ça des ambiances émotionnelles atmosphériques. Tout d'un coup, les personnages se retrouvaient traversés des zones de lyrisme, d'exaltation, d'émotion. Là, il les porte même parce qu'il les chante, mais le personnage, Tralala, non seulement chante lui-même, mais reçoit surtout tous les personnages qu'il rencontre, ces sortes de vagues d'émotions qui lui tombent dessus. Et qu'est-ce qu'il en fait, comment il se comporte par rapport à ça. Et ça, on l'avait déjà, toujours, dès que la musique apparaît dans nos films, c'est une zone à traverser, comme un nuage mélodique à traverser.
Surtout les chansons, c'est-à-dire la musique de film, bon, on finit par s'y habituer. Mais quand ça chante en plus... C'est vraiment une parole qui vient d'ailleurs. C'est risqué chaque fois, mais on aime beaucoup. Et à l'inverse, les derniers jours du monde, on a eu accès à toutes les bandes sur lesquelles Léo Ferré chantait à la fin. Il avait des bandes enregistrées, il était seul sur scène, il chantait sur ces bandes. Et on a récupéré toutes ces bandes de concert, mais sans la voix de Ferré. Donc c'était Ferré, mais en musique. Sauf à la fin, où il y a vraiment une chanson de Ferré. Ton style.
Oui, c'est vrai, c'est là aussi. Donc on avait travaillé sur l'idée des chansons qui tout d'un coup arrivent dans un film.
On peut avouer qu'adolescents, nos premières expériences de cinéma, on sonorisait les films de notre grand-père, alors avec les Pink Floyd, avec tout ce qu'on avait sous la main. Donc c'était des films de famille tournés en montagne, un peu montés, quand même un peu fictionnés. Et nous, on les sonorisait...
Avec la musique de nos parents. Donc en fait, nous, on mettait ce qu'ils écoutaient. On mettait les Pink Floyd sur les images du grand-père en montagne. Et finalement, on a commencé par faire du montage et faire rencontrer la musique et des images.
Oui, c'est vrai. La grand-mère se retrouvait Grace Kelly par la magie des Pink Floyd.
Et c'est vrai que le travail de la musique de film, en général, c'est une musique qui va être en parallèle du montage, qui va essayer de trouver le rythme, etc. Là, j'imagine que l'intégralité de cette musique, de ces chansons, était composée avant le tournage.
Oui, alors, en plus, on ne s'est pas interdit. Il y a eu toutes les chansons, musique créées pour le film, mais on ne s'interdisait pas non plus, s'il y avait des chansons qui nous plaisaient, de les utiliser aussi dans le film. Par exemple, Le mot juste de Bertrand Belin, on l'a quasiment utilisé comme s'il avait écrit cette chanson pour le film. C'est le scénario qui, à un moment donné, s'adapte à la chanson et qui donne, trouver le mot juste, dire adieu aux autres. Toutes les paroles devenaient notre propre scénario. Ça, on y tenait. René, on connaît la chanson, nous avait pas mal influencé. Alors lui, c'était des effets de citation. Nous, on rentre plus dans l'émotion de quelques chansons, mais on ne s'interdisait pas de naviguer dans les chansons.
Et donc comment s'est déroulée la collaboration avec les différents musiciens, chanteurs du film? Ils avaient le scénario, j'imagine, peut-être les dialogues des comédiens qui ont été la base du texte pour les chansons.
Oh, mais ça c'est rigolo, là en l'occurrence on est avec Dominique, mais c'était très drôle, tous sont très différents, parce que recevoir un objet comme un scénario, c'est très très spécial. Déjà nous, on sait lire nos propres scénarios, c'est déjà pas évident de lire le scénario des autres. Et donc on envoyait ce long texte de 90 pages en se disant c'est bien qu'ils aient un peu l'ambiance, mais je ne sais pas si... Chacun, en tout cas, on a eu des lectures très différentes du film et du scénario. Dominique, je me souviens plus, t'avais besoin de temps, non?
Oui, ouais, j'ai du temps, mais j'ai horreur de lire, enfin j'en ai pas lu beaucoup, mais j'ai horreur de lire des scénarios. J'ai horreur de lire des trucs photocopiés déjà, en règle générale. Ou des PDF. Donc oui, non, c'était... Mais en fait, c'est marrant parce que je trouve que... Je trouve que... Je dis, le film... Le scénario donnait une image, une idée assez juste du film, en fait. Tel que c'était déjà très précis, en fait.
Les textes des chansons, nous, on misait un peu sur les auteurs, mais eux misaient aussi un peu sur nous. Donc, au final, on s'est mis, nous, à écrire des chansons, mais de manière très décontractée. C'est-à-dire, on donnait le thème et on mettait trois rimes que parfois on allait même chercher sur Internet. Enfin, quelque chose de totalement honteux. Mille et une rimes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, il y a un site formidable. Bon, nous, on se l'est permis, ouais. En se disant, de toute façon, ils vont s'emparer de ça.
Ce qui
a libéré tout le monde.
Et il y a eu plein de... Là aussi, chacun a procédé selon une manière différente. Par exemple, Étienne Dao avec Jean-Louis Pierrot, son compositeur, il s'est fait comme une commande de ne pas bouger une virgule. Là, pour le coup, le texte n'est pas bougé d'une virgule. Alors, c'est vrai qu'il était déjà... Il était en rime, ça imitait un peu plus du Jacques Demy, toute une histoire comme ça, un peu explicative. Et lui, ils ont travaillé sur faire une mélodie à partir de ces mots-là, et ce qui était un exercice. Ils nous disaient, ah, c'est quand même pas simple, c'est de la mathématique. Voilà. Je dirais à l'inverse avec Dominica, franchement c'était la chanson la plus, j'allais dire, la plus difficile, c'est pas un hasard. On avait écrit trois choses, un peu de poussière, un peu de... On donnait le thème, mais franchement la chanson elle était pas là. Et là vraiment Dominique s'en est emparé. Et là pour nous c'était super parce que non seulement il y a une mélodie, mais la création des paroles qu'on reçoit. Et ça c'est très beau parce que très en amont, déjà, on en était qu'au scénario, tout d'un coup, ça répond, il y a un échange, quand les mélodies arrivent. Alors ça, je pense que tous les réalisateurs et réalisatrices qui goûtent à ça, c'est tout d'un coup, c'est comme si on allait très très loin en amont du film, plus tard, grâce aux chansons. Et ça, c'est super.
La collaboration au cinéma entre compositeur et réalisateur est toujours un mystère. Et là encore plus, Dominique A, d'où est venue votre inspiration justement pour ces chansons qui correspondent à ce personnage de Josiane Balasko, on peut le dire dans le film. Est-ce que c'est un mélange de collaboration déjà sur le texte entre vous et aussi après au niveau de la musique?
Alors il y a deux chansons qui sont attribuées à Josiane, dont une qui était préexistante, que Arnaud et Jean-Marie ont pioché sur un de mes disques qui s'appelle La Splendeur. Et donc j'ai écrit véritablement qu'une chanson pour le film. Et dans le scénario, il y avait des éléments de dramaturgie scénaristique qu'il fallait absolument injecter dans le texte. Donc moi j'aime bien avoir un cahier des charges. Et justement, je savais que je devais par exemple dire, voilà, expliquer le fait que la Josiane Balasko pense avoir retrouvé son fils et en quelque sorte que ce soit une espèce d'épiphanie, de moment de joie et de lyrisme en fait. Donc il y avait Arnaud et Jean-Marie avaient écrit quelques phrases qui se retrouvent, l'histoire des grains de poussière, il y avait l'histoire de l'hôtel aussi. Il fallait que la chanson fasse avancer, si j'ose dire, l'histoire, c'est-à-dire qu'elle s'inscrive dans l'histoire qui était racontée. Donc finalement je me suis basé sur quelques phrases qui ont été conservées, puis j'ai brodé autour, essayé de donner un peu d'ampleur au texte et je dirais qu'après c'est venu très très franchement la chanson elle a été composée, écrite, enregistrée en 2 heures quoi.
Très bien. Je l'ai eu. C'est parce qu'on s'est parlé. Tout ça, en plus le premier contact s'est fait pendant le premier confinement. On s'était jamais vraiment rencontrés, je crois.
Non.
Donc tout se passait par des coups de fil ou des messages comme ça. Et puis voilà, c'était mars, avril,
ouais.
C'est vrai qu'on sentait qu'il avait le scénario, il mettait du temps à le lire, puisqu'en plus, de toute façon, ça correspondait comme ça. Et puis, je sais pas, là, au printemps, un jour,
non,
alors
un
cette
jour
chanson.
Juillet, je crois qu'il y a un, mais,
voilà.
J'avais quand même une deadline, et ça commençait à chauffer, là. Et donc, je commençais un petit peu à m'inquiéter moi-même, et je savais qu'il fallait qu'à un moment donné ça jaillisse, pardon, que ça sorte, et c'est ce qui s'est produit en fait. Et à un moment donné j'étais au pied du mur et j'ai fait la chanson. Après, les arrangements sont pas de mon fait, ils ont été réalisés avec Renaud Létang, avec, j'ai oublié son prénom, mais son fils qui est musicien lui-même,
Aladdin.
Et merci, et qui a vraiment réalisé des superbes arrangements et qui donne un côté très onirique à la chanson, qui lui donne vraiment une forme de beauté un petit peu vaporeuse que j'aime beaucoup. C'est un très beau travail.
Et là, quand vous avez écrit votre chanson, vous saviez donc qu'elle allait être interprétée par une non-chanteuse, une actrice. Est-ce que vous aviez déjà d'ailleurs écrit pour des acteurs, des actrices? Et est-ce que ça a changé votre travail pour qu'elle puisse être chantée, que ce soit pas trop peut-être complexe pour elle?
Non, alors j'avais, pas du tout. Non, ce n'est pas le cas. J'avais écrit mais c'était dans le cadre d'un disque pour Jeanne Balibar, mais qui avait, je dirais, une posture, si j'ose dire, plus de chanteuse véritablement, parce qu'elle chante très bien, et c'était vraiment un album de chansons, bon, conçu comme tel, c'était son deuxième disque. Mais autrement, non, je m'étais jamais livré à cet exercice, et c'est extrêmement... Ça rejoint le fait d'écrire pour d'autres voix, de toute façon, qu'ils soient chanteurs, chanteuses ou non, c'est et des voix, quand ce sont des gens qui sont qui ont une telle incarnation, une telle image populaire, qui correspondent à quelque chose d'un inconscient collectif, c'est d'autant plus jouissif en fait, parce qu'on imagine ce qu'on peut apporter d'un peu neuf de façon très très épisodique, le temps d'une chanson à leur parcours, c'est-à-dire en quelque sorte s'immiscer dans leur parcours pour donner un petit truc supplémentaire de la personne sans la connaître, juste du fantasme en fait. Et j'étais ravi que ce soit. Il y avait d'autres personnes à un moment donné, d'autres actrices qui avaient été pressenties. Et moi, quand Arnaud et Jean-Marie m'ont parlé de Josiane Balasko, j'étais ravi parce que je trouvais que c'était complètement inattendu, notre association. Ouais. Et que c'est jouissif, quoi, de savoir qu'on ne va pas faire justement une chanson pour quelqu'un qui, a priori, fait partie de votre famille, on va dire, artistique. C'est ça aussi la beauté de ce genre de rencontre quand ça fonctionne.
Mon fils, mon enfant, te voilà revenu.
Il y a eu un échange entre vous, vous l'avez un peu coaché aussi sur le tournage ou pas du tout? Non, vous avez donné votre chanson et ensuite le reste s'est fait sans vous.
Moi j'ai rencontré Josiane le jour de la première, de l'avant-première à Paris fin mai, quoi. J'étais ravi de la rencontrer et j'avais eu bien sûr des maquettes très avancées avec la voix de Josiane, donc je savais à quoi ça allait ressembler.
Vous avez fait quelques musiques de films, un documentaire, une fiction, etc. Est-ce que l'exercice de faire de la musique de film, vous considérez que vous l'avez un peu pratiqué, c'est quelque chose qui vous plaît, ou alors vous restez dans le domaine de la chanson?
Je ne me sens pas légitime du tout. Je trouve que pour faire de la musique de film, il faut quand même avoir quelques connaissances musicales dont je suis dépourvu. Alors j'ai un bon sens mélodique, j'ai une paire d'oreilles qui fonctionne. Mais après, je trouve justement le fait que ce soit de la chanson, pour moi, c'est mon terrain, et c'est vrai que je me sens une légitimité. Quand j'ai fait des musiques de film, notamment instrumentales, j'ai toujours senti une forme d'imposture, et puis surtout pour des résultats qui étaient pas très enthousiasmants. Je crois que je ne suis pas fait pour ça. Moi, je suis vraiment fait pour travailler soit le texte, soit un rapport entre texte et musique pour cet art bâtard merveilleux qui est la chanson. Et c'est dans ce cadre-là que je m'épanouis. Autrement, je ne m'épanouis pas.
Il y a donc ces chanteurs dans ce film-là, ce n'est pas une nouveauté puisque vous avez toujours travaillé avec des non-compositeurs de films, si je peux dire, si ce n'est Catherine, Nicolas Repac, Caravaggio, qui était aussi un groupe de jazz rock sur scène. Donc ça, voilà, pourquoi ce choix-là fort?
Au fond, ce qu'on appelle un compositeur de musique de film, c'est pas notre tasse de thé, je crois. Parce que déjà, c'est ce qu'on appelle un peu le côté Dieu descend sur Terre. Pourquoi cette personne, tout d'un coup, on a un rapport à la musique fort, on a c'est quelque chose qui, peut-être plus à l'adolescence, mais enfin, qui a toujours habité nos vies. Donc quelqu'un qui dirait j'ai la compétence de savoir ce qu'il faut à un film, c'est plutôt le film qui s'ouvre, voilà, c'est des rencontres, et chaque fois ça a été ça, Caravaggio, Nicolas Repac, et c'est comme si on avait choisi un comédien et on va s'inspirer, c'est une personne qui va arriver et qui va apporter quelque chose au film, mais pas de manière surplombante, voilà.
Qui est même un peu vierge vis-à-vis du cinéma. Alors ça leur donne aussi un rapport très direct à ce qu'ils produisent, Et nous, on n'est pas embêtés pour déplacer, c'est-à-dire quand ils ont fait une musique pour cet endroit, nous, on dit c'est super, par contre, on va la mettre là-bas. Et si, quand ils ne sont pas compositeurs de musique, ça se passe beaucoup mieux d'opérer ces déplacements qu'avec des compositeurs de musique.
Parce qu'en plus, l'exercice, c'est forcément, c'est créer une troisième émotion. L'idée, c'est pas justement de creuser ou de, on n'est pas là-dedans. C'est associer une musique et un moment, une séquence. Et on travaille très bien avec notre monteuse, là, Annette Dutertre. Elle a le goût de ça aussi. Donc, c'est quasiment impossible de demander à quelqu'un de faire une musique pour cette séquence-là. Forcément, il va y avoir une sorte de rapport un peu redondant. Ou...
trop passé.
Et la chanson, c'était encore autre chose, puisqu'il y avait une commande de respecter le récit. Mais ce que tu appelles la broderie, c'est tout d'un coup, c'est une poésie qui arrive et qui fait monter une émotion en elle-même, quoi. Et ça, c'est bien que ce soit pas la nôtre, justement. C'est quelqu'un qui l'apporte. Mais chaque fois, je pense qu'on a envie de... C'est vraiment une rencontre. Et la musique par rapport à un film, on se dit, chaque fois, je pense que ce sera différent. C'est-à-dire, tiens, on va faire cette rencontre-là pour ce film-là. C'est ça qui peut-être être juste.
Terminons avec une des chansons de Tralala, écrite justement par Dominique A pour le personnage de Josiane Balasco qu'elle interprète elle-même.
Mon fils, mon enfant, te voilà revenu, un rayon de soleil. Où danse la poussière dans une chambre d'hôtel, notre hôtel. Je te vois comme au premier jour, toi parti depuis si longtemps, toi parti faire un tour pendant 20 ans, pendant 1000 ans. De quels enfers nous reviens-tu, toi qui t'es-tu longtemps, que j'ai tant attendu, quand tant d'autres t'ont cru, happé par l'océan. Tu portes encore l'odeur des villes que tu as traversées, et l'odeur des années gâchées, je la reconnais entre mille, ces années que j'ai passées. Une attelle posée sur le cœur, rien que ton nom prononcé, attisait la douleur. Mais tu es là, doux et tranquille, qui me ramène à la vie.